Je vais commencer par le titre qui n'a pas changé, hein. C'est bien une écriture gourmande, le roman de langue anglaise, celle du pasticheur. Donc peut-être deux épigraphes, un de La Bruyère, que vous connaissez, enfin vous connaissez la citation, tout est dit et l'on vient trop tard depuis plus de 7000 ans, il y a des hommes qui pensent, donc un extrait de caractère. Et puis de Christian Klein, qui a écrit sur la littérature allemande, un écrivain qui réécrit le texte d'un autre auteur et un lecteur qui passe à l'acte. Donc cette communication suivra deux actes, deux axes, quelques considérations théoriques sur la technique du pastiche littéraire, comme écriture imitative, intertextuelle. Seront suivis de plusieurs exemples extraits de la littérature de langue anglaise pour souligner ce qu'A.S. Barrett appelle greedy rewriting, cette réécriture gourmande des textes canoniques qui fait littéralement revivre les récits des écrivains du passé, proches ou lointains, comme elle l'illustre elle-même dans la plupart de ses romans depuis The Possession. Étymologiquement, d'origine culinaire, pastiche vient de l'italien pasticcio, pâté, et des manins en pasti ou pie, selon la définition de Florio, le traducteur de Montaigne. Un pâté étant souvent composé de plusieurs viandes différentes, ou bien allusion à la pâte qui reproduit plus ou moins parfaitement les formes et les contours d'un moule. Le terme a tout d'abord été authentifié en anglais en 1706, c'est-à-dire assez tardivement quand même. Selon l'OED, il est en concurrence avec justement pasticcio pour l'opéra, puis la peinture, avant de s'appliquer à l'écriture. En français, le mot pastiche n'apparaît qu'en 1762 dans la deuxième édition du dictionnaire de l'Académie, nom qu'on donne à certains tableaux, on commence toujours par la peinture, où l'on imite la manière, le goût, le coloris d'un peintre, et l'exemple, premier exemple, les pastiches de Teniers. Et il faudra attendre l'édition de 1932-35 pour trouver un exemple de pastiche littéraire, et c'est pas étonnant. La Bruyère, au chapitre de la Société de la Conversation, fait un agréable pastiche de Montaigne. On prend souvent cet exemple pour essayer de montrer la différence, j'y reviendrai, entre pastiche et parodie, mais les inconditionnels du mélange des deux termes continuent à dire qu'il y a aussi parodie. Alors que quand on lit le texte de La Bruyère, il n'y en a vraiment pas, c'est vraiment un pastiche très sérieux, à l'honneur, en l'honneur finalement de Montaigne. Ce procédé très ancien, Genette le fait remonter à Platon dans Le Banquet, reste assez mal défini, caractérisant l'imitation de l'écriture et de la thématique d'un auteur connu, a longtemps été négligé ou a été considéré par la critique et l'histoire littéraire, je devrais surtout française, comme ayant mauvais genre, car comme étant nécessairement parasitique. On a vu dans cette technique d'imitation un simple jeu intertextuel à décrypter allant du à la manière de au plagiat juridiquement condamnable et relevant alors du domaine du faux en écriture et de la contrefaçon. Dans le monde anglophone, en revanche, le pastiche est valorisé en particulier comme étant l'un des procédés les plus représentatifs de la modernité. Donc la question inévitable, parodie ou pastiche, finalement, c'est une longue querelle qui peut être stérile et aboutir à des conclusions contradictoires. Comme deux frères jumeaux, il est souvent difficile de les différencier clairement et il semble préférable de ne pas s'enfermer dans une seule définition, un peu terroriste. Ça c'est le parodie, ça c'est le. En effet, comme le coucou, le pasticheur et l'auteur d'une parodie utilisent tous les deux le nid d'un autre pour donner vie et substance à leur propre création. L'un comme l'autre peuvent être considérés comme des voleurs de mots, pour reprendre l'expression forgée par Michel Schneider. Ce que l'on peut retenir surtout de la définition de Gérard Genette dans Palimpseste, c'est que le pastiche est plutôt, alors il y a toujours des clauses comme ça qui modifient, c'est très proche du dernier, ils ont dit une chose en même temps, mais c'est pas tout à fait bon. Alors ça c'est un vrai jeu, le pastiche est plutôt une imitation sérieuse qui s'inscrit dans le respect du grand modèle, alors que la parodie est une transformation sur un mode humoristique, souvent satirique et souvent dont le but peut être de mettre en accusation les textes du passé. Si la parodie tente à se moquer du texte canonique, le pastiche adopte un ton plus neutre. Et Genette continue, « Je rappelle que des études savantes marquent une application presque constante du terme parodie au pastiche satirique, et il commence à mélanger, et distingue presque constamment la parodie du pastiche comme une imitation plus chargée d'effets satiriques ou caricaturaux. » En fait, Genette résume son propos, on cite souvent cette phrase-là hors de son contexte, « Je propose donc de rebaptiser pastiche l'imitation d'un style dépourvu de fonction satirique. » Bon, alors ça date un peu. Donc il y a une étude beaucoup plus récente, évidemment qui commence par analyser Genette, de Paul Aron, qui date de l'année dernière, et selon Paul Aron, le pastiche est l'imitation des qualités ou des défauts propres à un ensemble d'écrits. Il consiste à repérer le ton ou le style d'un auteur, puis à le transposer dans un texte nouveau. Je crois qu'il y a tout là. Quant à la motivation du pasticheur, selon Aron, elle est multiple et peut aller de l'hommage à la parodie et au plagiat. En fait, si le pastiche appartient davantage au domaine du sérieux, rien ne l'empêche pourtant de comporter également certains aspects ludiques et les registres peuvent d'ailleurs varier au sein du même texte. Ça, on le verra pour David Loge, par exemple, et pour beaucoup de textes, les auteurs eux-mêmes disent « bah oui, j'ai voulu faire un pastiche, mais en fait, c'est assez parodique aussi. Hein, » c'est ce que dit David Loge. Donc, en fait, le pastiche ne cherche pas à renier le canon littéraire, mais à s'en moquer. Au contraire, il le justifie en le consolidant par un retour affectueux et respectueux aux grands textes hérités du passé pour leur rendre hommage selon le principe que l'on ne pastiche que les auteurs que l'on admire et que l'on aime. On trouve ça beaucoup dans Michel Schneider, justement. Alors que la parodie contient souvent un aspect satirique et critique, même si dans, alors je viens de dire, Umberto Eco, pastiche et postiche, Eco affirme qu'en parodiant Lolita, qui est devenue Nonita, je ne sais pas si on va en parler sur le cours de la délégation, malgré tout, donc, Eco dit en réalité que c'est aussi un hommage, en fait. Donc, il mélange un petit peu les deux. Et voilà ce que Eco écrit, la parodie se veut aussi un hommage, en fait, hein, dans cette parodie de Lolita. Dans le même sens, Vanessa Guimery intitule l'un de ses chapitres sur le perroquet Schubert un hommage révérencieux, lorsqu'elle analyse les différents jeux linguistiques utilisés par le narrateur pastichant l'écriture de Flaubert. Ce qui apparaît immédiatement en cherchant à délimiter l'étendue du pastiche, c'est la grande variété des domaines couverts qui sont loin de se limiter à l'écriture. Le pastiche s'applique parfaitement à l'architecture postmoderne, devenue auto-référentielle. Donc on peut penser à la fameuse Sainsbury Extension à Londres, ajoutée à la National Gallery, avec ses colonnes grecques qui n'ont pas jusqu'au bout et qui ne soutiennent rien. À la musique, bon, évidemment les opéras classiques de Handel, à la chanson, au cinéma évidemment énormément, à la peinture, je l'ai dit. Donc là je vous ai mis une petite photo qui n'est pas très belle, d'un cabinet d'amateurs, un récit formidable de Georges Perec. Donc cabinet d'amateurs, c'est, comme on le voit, donc un peintre qui peint finalement des pastiches de peintres antérieurs en fait. Hein. Mais en plus c'est une surprise dans le livre de Georges Perec que je vous laisse découvrir. C'est pas le bon. Bon, à la photographie, au cinéma, hein, on pense aux hommages, aux citations dans les films de Quentin Tarantino, dont Pulp Fiction, évidemment, est la pierre de touche. D'ailleurs, l'étendue du pastiche semble ne guère connaître de limites. Certains auteurs, comme Claro, le producteur Claro, c'est tout récent, j'ai écouté ça sur France Culture, estimant que le traducteur, en réalité, reconstruit et réécrit le texte d'origine. Et que, en fait, le traducteur produit ce qu'il considère lui-même comme un faux en écriture proche du pastiche. C'est pas le même texte, évidemment. Et donc différent, nécessairement, du texte en version originale qui a été modifié et réécrit. En fait, à la limite extrême, il semble possible de considérer que tout récit est pastiche des textes qu'un auteur a plus ou moins consciemment fait ressurgir de sa mémoire en puisant dans cette encyclopédie personnelle dont parle Eco dans Lector in Fabula. Donc on a vu que Montaigne, déjà, dans ses essais, avait bien expliqué que les écrivains ne pouvaient plus que s'entregloser déjà à son époque. On ne pouvait pas innover. Les pourfendeurs du postmodernisme estiment d'ailleurs, à l'instar de Frédéric Jameson, que le pastiche est triste, qu'il révèle une incapacité à renouveler les procédés littéraires du passé et qu'il ne reste plus alors qu'à imiter les textes canoniques dans ce qu'il appelle un langage mort, consacrant la faillite du nouveau et l'emprisonnement dans le passé. Pastiche is a blank parody, parody that has lost its sense of humor, in a world in which stylistic innovation is no longer possible, all that is left is to imitate dead styles, to speak to the masks and with the voices of the style of the imaginary museum. Il en va de même, on l'aura reconnu, pour Jean Baudrillard, quand il affirme « La stimulation est maîtresse, nous n'avons plus droit au rétro, à la réhabilitation fantomatique parodique de tous les référents perdus. » C'est dans « simulacre », j'avais dit, et « simulation ». En tant que là, il n'y a plus qu'à suicider, ce n'est pas du pastiche, donc il faut un peu l'autre côté quand même. Donc, au contraire, d'autres valorisent le pastiche en tant que procédé enrichissant les textes imités auxquels ils confèrent un supplément de sens et considèrent que, je cite Aron, c'est un genre à part entière. Paul Aron estime que le pastiche institue l'imitation stylistique au rang de fait littéraire. Pour Vanessa Guillery, ce procédé met en place une démarche créatrice, l'écrivain prenant appui sur un texte préexistant pour composer une mélodie inédite, et donc création. Bon, les fonctions du pastiche, elles sont nombreuses. On peut considérer le pastiche comme un outil permettant à l'apprenti écrivain de faire ses gammes, ce qu'on disait Proust par exemple, en imitant certains modèles choisis, aboutissant à des exercices de style, vous ne pouvez pas y échapper, comme ceux de Raymond Queneau, dans lesquels, vous vous souvenez, il utilise 99 façons différentes de raconter la même histoire banale, deux ayant la forme d'un pastiche, l'un de Camus, l'autre de Céline. Ce peut être également une façon de se libérer de la trop grande influence d'un auteur qu'un auteur pourrait avoir sur l'écriture d'un autre. Je n'ai fait le point sur ce que Proust appelait la vertu purgative, exorcisante du pastiche et du profit que pouvait retirer un écrivain à faire du pastiche volontaire pour ne pas faire toute sa vie du pastiche involontaire. Ça, c'est un peu méchant. On se souvient de Graham Greene finissant par s'interdire de continuer à lire notre cher Conrad de peur de ne pouvoir écrire toute sa vie que du Conrad de deuxième catégorie. On peut enfin considérer qu'un bon pasticheur puisse jouer un rôle de critique actif dans son propre texte. Ça aussi, c'est souvent utilisé, car c'est une forme de critique. Oui. C'est une critique pratique par rapport aux critiques extérieures. Là, on écrit ici. En révélant donc les ficelles du pasticher, c'est ce que Jacques Laurent appelle la critique créatrice. Dans son éloge du pasticheur, ce dernier rassemble les tics les plus fréquents du maître et par là même ébauche une critique intérieure. Voilà, là je vais faire volontairement une ellipse que j'avais prévue, au cours de laquelle je lançais un certain nombre de pistes, parce que je me suis aperçu que c'était un sujet qui était extrêmement vaste. Et donc, éventuellement, s'il y a une publication, je mettrai un petit peu genre food for thought. Hein, en particulier, quelque chose qui est passionnant, c'est l'écriture de la fin de textes qui n'ont pas été terminés, en particulier par la mort de l'auteur. C'est, quand on peut penser à Dickens avec The Mystery of Edwin Drood, ou on peut penser, par exemple, à la toute dernière nouvelle d'Edgar Poe, ça c'est assez même sentimentalement angoissant, c'est-à-dire qu'on voit les derniers mots écrits par Poe, il n'y a même pas de signe de ponctuation, il n'y a pas rien, ça se termine au milieu d'une phrase, et donc notre collègue Jean-Pierre Legrette a imaginé quelque chose d'un peu tordu, comme j'aime beaucoup les textes tordus, petite confidence, qu'on avait trouvé quelques pages écrites par Stevenson, que connaît bien Jean-Pierre Legrette, et que, en fait, ces pages qui avaient été écrites, il faudrait mettre plein de guillemets, c'était la fin du conte d'Edgar Poe. Donc Jean-Pierre Legrette, en fait, a écrit un pastiche magnifique de la fin de cette nouvelle en se fondant sur ce film. Alors, il y a tout un tas de choses, et en particulier, donc, excusez-moi de me mettre là sur le chat, mais la nouvelle dont on a parlé, donc, que Green a écrit à 22 ans, donc que j'ai trouvé à Austin, au Texas, dont les deux premiers chapitres ont été publiés dans le Times et maintenant vont être la totalité, c'est-à-dire elle n'est pas terminée non plus. Alors, un récit policier qui n'est pas terminé, c'est embêtant. Jamais où did it. Alors, ça va être publié dans The Strand, la revue américaine très ancienne, et on a décidé très probablement que, arrivé au chapitre 5, là où s'est arrêté Green, on ne sait pas pourquoi, on va demander au lecteur de Strand, donc vous si vous voulez, d'imaginer la fin, donc de faire un pastiche à la Graham Greene en se fondant sur les textes existants. Voilà, donc ça c'est des pistes, mais bon, il y en a d'autres. Alors, les textes maintenant, deuxième partie, pas aux pratiques. Donc évidemment, l'exemple canonique, c'est bien entendu Pierre Ménard, l'auteur de Don Quichotte de Luis Borges, dans lequel, comme vous le savez, un romancier réécrit en les recopiant mot à mot plusieurs chapitres, en fait je crois que c'est trois chapitres, du roman de Cervantes, créant ainsi un texte à la fois parfaitement identique et pourtant, selon Borges, différent. Car avec les 350 ans de décalage, le style était devenu archaïque et les allusions nécessairement anachroniques. Antoine Compagnon a écrit des choses très intéressantes dans son ouvrage, de la seconde main. La liste des romans anglais pastichés serait très longue, certains auteurs semblant attirer le pasticheur comme l'aimant. Le texte exemplaire de pastiche, proche de la parodie de la littérature de langue anglaise, est très certainement, dès son titre, contenu dans Ulysses de Joyce, en particulier les épisodes des Oxen of the Sun, qui imitent en fait l'évolution des styles de la prose anglaise, et Nausicaa, qui reprend les caractéristiques des romans sentimentaux féminins de l'époque. Mais parmi les écrivains anglais contemporains, c'est certainement Peter Ackroyd qui exploite le plus ses talents exceptionnels de pasticheur, à la fois dans ses romans et dans ses biographies fictives. À son sujet, Jean-Pierre Audigier a pu parler de Jubilation de l'apocryphe et de Festival du pastiche, et Catherine Bernard a souligné la superposition des masques littéraires portés par un écrivain sous influence, dont l'œuvre se conforme parfaitement au concept d'écriture palimpsesteuse forgé par Philippe le Jeune. Une des lignes de force constante de toute l'œuvre d'Ackroyd, en effet, vous verrez, c'est jusqu'à hier, oui, si, d'accord, j'en tiens pas au monde, mais je vais dire simplement quelques mots sur les trois auteurs que je vais réserver. Donc, si vous voulez, c'est une idée qui va jusqu'au vampirisme, un effort fait par l'écrivain pour se mettre dans la peau et dans l'univers des auteurs. Et là, on peut faire un parallèle, d'ailleurs, qui n'est pas gratuit, comme avec les travestis qui cherchent finalement à transformer l'image qui leur a été imposée par la nature, et dont Ackroyd a analysé les motivations dans son essai publié en 1979, et qui s'appelle précisément « Dressing Up, Transvestism and Drag, the History of an Obsession ». Donc par exemple dans Dickens, dans sa biographie fictive de Dickens, il y a des chapitres qui ont été d'ailleurs diversement appréciés par la critique. Je me souviens, notre regretté collègue Sylvain Monod avait été amené à parler de ces chapitres, au cours desquels Dickens dialogue avec Oscar Wilde, avec T.S. Eliot, avec Amy Dorrit, et avec évidemment Peter Ackroyd. On a vraiment l'impression que Peter Ackroyd est en face de Dickens et que Dickens a le droit à la parole. Bon, maintenant dans English Music, c'est aussi un roman absolument extraordinaire, en particulier parce que Peter Ackroyd souligne la problématique d'une commune de nos problématiques, c'est-à-dire celle de la réception des textes pastichés. Et il fait une distinction qui me paraît intéressante entre le lecteur savant et le lecteur attentif. Alors, j'ai l'impression que le lecteur savant, c'est nous, donc il ne nous aime pas beaucoup, parfois il n'a pas tort, et le deuxième, c'est le vrai lecteur qui lit le texte parce que ça lui fait plaisir. The scholarly reader will soon realize that I have appropriated passages from Thomas Brown, Thomas Malory, William Hogarth, etc., Lewis Carroll, etc., and many other writers. The alert reader will understand why I have done so. Donc, vous voyez, éliminer irrémédiablement. Bon, donc là, je vous aurais un peu raconté ce qui se passait dans English Music, c'est-à-dire l'imprégnation par le personnage de roman qui rencontre Peter Ackroyd. Alors, donc, sur le Dernier Testament de Oscar Wilde, là, on en arrive à quelque chose de même ambigu, puisque c'est un testament que Oscar Wilde n'a jamais écrit, mais qu'il aurait véritablement pu écrire. Donc, on y croit. D'ailleurs, sur les éditions récentes du roman, rien n'indique que c'est écrit par Peter Ackroyd. À la limite, le lecteur peut-être un petit peu trompé, et ça commence, Hôtel d'Alsace, Paris. This morning I visited once again the little church of Saint-Julien. Le pauvre, ça c'est la première entrée, et la dernière entrée, ça y est, il est mort, et c'est son médecin, Maurice Gilbert, qui c'est parfaitement exact. This is Oscar Wilde talking, taken down by Maurice Gilbert. Donc la toute dernière publication de Peter Ackroyd qui vient de paraître, vous allez voir que l'ambiguïté sur l'identité auctoriale s'est encore accrue. Sur la couverture, on peut lire Peter Ackroyd, a retelling of Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales. C'est en 2009. Donc là, on a l'impression que le traducteur adaptateur a pris la place de l'auteur, et la précédente de l'auteur. Geoffrey Chaucer arrive en deuxième. Hein. Bon, alors, en trois minutes quand même, ça c'est bien connu. Dès qu'on parle de pastiche, on parle évidemment de Lodge et The British Museum is falling down. C'est très bien intégré à l'intrigue, puisque l'anti-héros du roman, Adam Appleby, a tendance, comme nous tous, à faire des rêves éveillés quand il travaille à la bibliothèque. Là, c'était celle qui était au British Museum. Et ces rêves éveillés sont des pastiches des auteurs qu'il lit ou dont il va demander l'ouvrage. Donc, je vous en donne peut-être un quand même, et comment gigantesque. He passed through the narrow vaginal passage and entered the huge womb of the reading room across the floor, dispersed along the reading room, along the radiating desk, scholars curled, fetus like. Donc on n'est pas étonné que le livre qu'il demande, après avoir parlé de Lady Chatterley's Lover avec le bibliothécaire, ce soit The Rainbow. Bon, donc je termine quand même sur une note un peu humoristique. Donc sur ce jeune auteur de Mark Crick, on a baptisé le pasticheur fou parce qu'il semble s'être spécialisé dans les imitations littéraires et iconiques de grands auteurs en utilisant des thématiques surprenantes, la cuisine et le bricolage. Ça a eu énormément de succès et Mark Crick est venu présenter ces pastiches. Donc le premier, c'était Kafka Soup, A Complete History of World Literature in 14 Recipes. Après, vous avez l'agneau à la nette à la Raymond Chandler, le bateau au chocolat à la Irving Welsh, le poulet vietnamien à la Graham Greene. Et ça marche extrêmement bien fait. Et le second, c'est bricoler avec les grands écrivains. Comment poser du papier peint avec Ernest Hemingway, comment débloquer un tiroir coincé avec Samuel Beckett. Donc, je vais vous donner deux mots sur Boarding an Attic with Edgar Allan Poe, parce que j'ai eu le plaisir de le traduire et c'est pas du gâteau, croyez-moi. Comment parqueter un grenier avec Edgar Allan Poe? C'est vraiment, là encore, le conte que Poe aurait dû écrire. Je travaillais sur quoi, mais c'est pas possible. Il l'a écrit, et vraiment il l'a pas écrit. Donc le thème, c'est un thème très poétique, l'enfermement. Donc comme dans la barrique d'Armadillo, le chat noir, l'enfermement prématuré. Donc voici l'intrigue en deux mots, terrifiant. Le narrateur, collectionneur impénitent, comme nous, a accumulé une telle multitude de textes relatant les catastrophes du monde entier, il est amené à parqueter le plafond de son grenier pour ajouter une pièce, pour mettre tout ça, classer ses livres. Et que son ouvrage est si minutieux et parfait qu'il oublie de se ménager une issue et se retrouve inexorablement emmuré jusqu'au moment où l'apparition d'un œil et d'aile, signale la présence du diable et de corbeaux prêts à venir chercher des lambeaux de son corps. Ha ha! Ça, j'ai trouvé que c'est formidable. Parce que dans Poe, dès que le diable arrive, ha ha! Il y a un petit. Il l'a mis, évidemment. Ah! I see his eye peering down. I hear the flapping of his dark wings, the scratching of his claw-like toes. The hateful eye watches me now almost constantly. I see him, and I hear his kindred gathering on the rooftop. An unkindness of ravens ready to gather me up parcel by parcel. Donc, aucune charge, aucune moquerie, on est bien en plein pastiche dans lequel Mark Rick rend hommage au texte de Poe par amour de ses contes auxquels il renvoie ses lecteurs. Et pour conclure, disons que l'un des plaisirs d'écrire comparable à celui de l'acteur est certainement d'avoir la possibilité de se mettre dans la peau d'un autre. Pour le lecteur, le pastiche offre en plus la joie d'avoir conscience de partager avec le pasticheur la même culture littéraire, fruit de cette écriture gourmande dont parlait A.S. Byatt, pour faire réentendre les grandes voix du passé en y ajoutant la sienne. Et je vous remercie.